à l'écoute de Radio Calade. Tout de suite, le magazine. Si l'Europe est considérée comme l'un des six continents, elle est en réalité, au plan géographique, la péninsule occidentale de l'Asie, parfois nommée Eurasie. Ses limites orientales, en particulier, restent donc indéfinies et controversées, correspondant plus ou moins aux frontières de l'Ukraine et de la Biélorussie, faisant de la Russie actuellement un pays un peu européen et un peu asiatique pour les géographes. En réalité, ces frontières sont essentiellement politiques. Pour la première fois, depuis l'acte unique en 1986, des forces politiques conservatrices et nationalistes puissantes ne proposent pas de quitter l'Europe, mais de la servir à leur projet. Un défi qui s'ajoute. L'élection du Parlement européen se déroulera du 23 au 26 mai dans les pays de l'Union. Le tableau général est sombre. Les conditions de sortie du Royaume-Uni restent confuses. Les relations avec les États-Unis, l'extrême droite a le vent en poupe. La gauche ne s'accorde pas sur un projet européen. La fracture entre des gouvernements ou partis populistes et d'autres libéraux, mise en scène et entretenue par Paris, Rome et Varsovie, ajoute au désarroi de l'Union. Aujourd'hui, l'Europe existe-t-elle vraiment en dehors de sa monnaie unique? Nombre de questions que l'on est amené de se poser. Avec nous, Michel Rousselot, ancien président ingénieur et cadre européen pour l'organisation associée à la Confédération européenne des syndicats CES.
Oui, quand on parle d'Europe, vous avez raison, il faut d'abord regarder d'où on parle. On parle d'une petite péninsule dans le monde qui s'appelle l'Europe et qui est aujourd'hui confrontée à toute une série de défis qui se passent dans les autres régions du monde. On est confronté au développement de la Chine. Alors le développement de la Chine, c'est sympathique parce que ça a permis à des millions de Chinois de pouvoir vivre, ce qui n'était pas le cas auparavant, de pouvoir se nourrir. Mais avec le régime dictatorial qu'a ce pays, on se rend compte que la Chine est en train de conduire toute une série de politiques d'investissement qui concernent directement nos pays. La Chine achète des terres, pas seulement en Afrique, elle en achète en Afrique, mais elle en achète aussi dans nos pays européens, en France en particulier. Elle achète des ports, elle développe une stratégie d'investissement des routes de la soie qui conduit tout à fait à une volonté d'intervention dans le monde renforcée. On est aussi confronté à l'évolution de l'Amérique. On a un président américain qui devient de plus en plus dangereux, va en guerre. On entend récemment, ces derniers jours, qu'il veut imposer de nouveaux embargos aux produits iraniens et qu'il veut imposer aux autres pays comme le nôtre de suivre cet embargo sous menace de mesures contre notre commerce international. Et puis, n'oublions pas, dans la période d'élection, son ancien conseiller Steve Bannon s'est installé à Bruxelles pour soutenir les candidats d'extrême droite dans les différents pays européens. Donc il y a une volonté d'intervention de ce côté-là, directement dans nos débats européens et dans nos débats liés à la construction européenne. Alors je mentionne aussi, parce que pour être complet, la Russie de Poutine. Et c'est la première fois depuis l'armistice de 1945, depuis 1945, il n'y avait pas eu de changement de frontière en Europe. Aussi bien en Géorgie qu'en Ukraine, il y a eu des conquêtes ces dernières années, des conquêtes militaires, et il faut appeler les choses par leur nom. Donc l'Europe est soumise à une pression de son environnement qui est tout à fait nouvelle. On n'est plus dans la guerre froide, mais on est dans des menaces bien réelles qui pèsent sur elle. Je n'ai pas mentionné la cyberguerre, qui est aussi bien réelle, même si elle est cachée.
Donc, on remarque combien cette Europe a un poids et pourtant un caractère un petit peu lointain que représente cette Europe, en tous les cas, pour les Français.
Alors, on entend souvent dire, particulièrement en France, que la France est un grand pays. C'est un mensonge. La France représente 1% de la population mondiale. On n'est pas un grand pays qui pèse dans le monde avec 1% de la population. L'Europe, par contre, a du poids. Parce que l'Europe, c'est beaucoup moins de population que la Chine, naturellement, mais c'est une population deux fois supérieure à celle des États-Unis. L'Europe est la première puissance commerciale mondiale. Sur le plan économique, elle fait jeu égal avec les États-Unis. Donc, notre seule façon de peser face aux menaces que j'évoquais il y a un instant, qui existent dans le monde dangereux dans lequel nous sommes, c'est bien par l'Europe. L'Europe est notre seul instrument qui nous permet d'agir. Tous les cocoricos nationaux qu'on entend ou nationalistes qu'on entend sont simplement en dehors de la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, si nous revenons à votre question sur le caractère un peu lointain de l'Europe, c'est vrai que l'Europe apparaît souvent un peu compliquée, un peu lointain. On ne sait pas très bien ce qui se passe à Bruxelles. Alors, rappelons quand même que lors des élections européennes, c'est une décision française, particulièrement du président de la République, qui a voulu que les élections se passent avec une seule circonscription nationale. Et on a abandonné ce qu'on avait connu lors des deux dernières élections, depuis 10 ans, lors des deux dernières élections européennes, avec des circonscriptions régionales. Il avait probablement des raisons politiques de faire ce choix, mais on ne peut pas dire que ça rapproche les citoyens européens des députés. Par ailleurs, lorsqu'on nous dit « l'Europe, c'est compliqué », j'ai eu à plusieurs reprises à expliquer les institutions françaises à des amis d'autres pays. C'est pas plus simple que l'Europe. C'est pas plus compliqué non plus. C'est plus compliqué parce qu'on connaît moins. Mais le fonctionnement des institutions, où il y a une commission qui joue le rôle d'un gouvernement, où il y a un parlement qui joue le rôle d'une assemblée parlementaire, où il y a le conseil qui est la seconde assemblée législative avec le parlement, c'est finalement assez classique dans le fonctionnement de principe des institutions européennes. Si l'on regarde de près, on s'aperçoit d'ailleurs que le fonctionnement de l'Europe est beaucoup plus démocratique que le fonctionnement français. Les ministres français sont nommés par le président de la République. Le Parlement n'a pas son mot à dire. Alors que les membres de la Commission européenne sont auditionnés individuellement et de façon extrêmement précise par le Parlement européen. C'est qu'un exemple, on pourrait en mentionner d'autres. Au total, il apparaît bien que le fonctionnement européen est beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus respectueux de la diversité des situations que ne l'est le système très jacobin et centralisé français.
Alors revenons justement sur l'utilité de l'Europe et plus particulièrement pour ses citoyens. Quels sont les avantages, peut-être pour mieux aider à faire comprendre effectivement les avancées en quelque sorte européennes sur cette question ?
Il y a de nombreux domaines dans lesquels aujourd'hui, pour les Européens, l'Europe est présente et agit. Il y a le domaine social, il y a le domaine économique. Nous avons une monnaie unique, l'euro, qui nous a beaucoup protégés ces 10 dernières années. Elle est plus ancienne que ces 10 dernières années. Mais elle a évité que l'importation de la crise américaine des subprimes ait des conséquences dévastatrices dans un certain nombre de pays européens, notamment le nôtre. Rappelons-nous, pour les moins jeunes, rappelons-nous des dévaluations qui mettaient à bas périodiquement l'économie française. Nous avons pu passer à travers ces dangers-là. Et donc l'Europe a joué un rôle extrêmement protecteur sur le plan économique. Sur le plan social, l'Europe a développé toute une série de politiques qu'on peut regarder de plus près, en effet. Par exemple, la législation européenne dans le domaine social a une origine dès les tout premiers développements de l'Europe, au moment de la CECA en 51 ou du traité de Rome en 57. Elle s'est développée dans toute une série de domaines, l'égalité homme-femme, le temps de travail, la santé, la sécurité au travail. Il y a eu toute une série de directives protectrices concernant les chantiers, la protection contre les radiations, contre l'amiante, l'interdiction du travail des enfants. Tout ceci, ce sont des législations européennes qui se sont mises en place petit à petit. Un des grands domaines d'intervention de l'Europe, ça a été également la liberté de circulation. nous avons la possibilité de circuler librement et de nous établir dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et ceci est une liberté tout à fait fondamentale. Il ne peut pas y avoir de discrimination selon le pays d'origine. Alors on a beaucoup parlé en France ces derniers mois de la directive détachement, parce que cette directive permettait à un salarié de continuer à être lié à un employeur d'un autre pays étranger, tout en travaillant en France et en étant en fait soumis à la fois une partie de législation française et une partie de législation de son employeur d'origine. Et une directive européenne permettait ces situations. Lorsqu'on regarde les choses de plus près, il y a toute une série de domaines dans lesquels maintenir de telles situations est indispensable. Je pense à la série du consulting d'entreprise. Il y a une circulation importante des consultants qui ont besoin des bureaux d'études, qui ont besoin de pouvoir travailler dans différents pays tout en restant rattachés à leur employeur d'origine. Il y a eu des abus. On appelle ces abus le dumping social, et ça a été particulièrement vrai pour les routiers et pour le transport routier. Alors la directive vient d'être modifiée pour permettre de faire davantage la chasse à ces abus. Dans un premier temps, parce que la négociation a été un peu difficile, le transport routier a été mis en dehors de la nouvelle directive. Les discussions sont en cours actuellement pour les transporteurs routiers qui vont rentrer dans ces dispositions, qui assurent une égalité de traitement, de respect de la législation locale et une égalité de traitement concernant les salaires, notamment dans le pays où s'exerce l'activité, quelle que soit l'origine du pays de l'employeur.
Oui.
Peut-être, concernant toujours la libre circulation et la mobilité, parmi d'autres aspects extrêmement importants, beaucoup de mesures ont été prises. Alors, elles sont insuffisantes, ce n'est pas terminé, mais beaucoup de mesures ont été prises pour la reconnaissance des qualifications et diplômes. Et ça concerne aussi bien le domaine des études universitaires, avec des correspondances de niveau de diplôme, que les professions réglementées, lorsque on veut exercer la profession de pharmacien, etc., ou de médecin, on doit avoir un diplôme de type précis pour protéger les usagers et les consommateurs, que les professions de diplôme moins réputées, avec un cadre européen des certifications, qui permet de faire en sorte que les qualifications, soit par des diplômes, soit par l'expérience professionnelle, puissent être reconnues de façon relativement semblable dans les pays. Et puis, comment ne pas citer Erasmus ? Erasmus est un succès européen tout à fait essentiel. Ça a permis à des jeunes étudiants d'abord de continuer des études, une part d'études dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, Erasmus est en train de s'élargir aux apprentis et donc va concerner encore bien davantage de membres. Et puis n'oublions pas qu'il y a probablement un peu plus d'un million de bébés Erasmus. Ce n'est pas tout à fait rien pour l'Europe de demain.
Enjeux pour ce printemps européen. Fini la naïveté européenne. Une course contre la montre est engagée en relevant les défis posés aux droits de l'homme, à l'état de droit, par l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais aussi, la France met l'accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes et contre le racisme et l'intolérance. Alors, allez à Jacta. Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.